direct de la Maison de la Radio avec Anna Houlvec et Gilles Blanchard à la réalisation, avec Alex Dang à la technique, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Bruno Barada à la programmation et Laura Dutèche-Pérez à la préparation. Bonjour à tous. 12h55, l'historien Achille Mbembe analyse les multiples crises qui secouent le monde et lui tend un miroir africain, laboratoire de la coopération pour penser la transition. Mais d'abord, autant on emporte le vent, le roman Fleuve de Margaret Mitchell s'offre une nouvelle traduction et une nouvelle édition en deux volumes chez Gallmeister. Prix Pulitzer à sa sortie en 1936, la saga est adaptée au cinéma 3 ans plus tard par Victor Fleming. Comment s'empare-t-on aujourd'hui d'un tel mythe? Nouvelle traduction, nouveau souffle. Une aventure éditoriale dont nous parlent nos deux invités, la traductrice Josette Chiche-Portiche et l'éditeur Oliver Gallmeister, tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Josette Chiche-Portiche.
Bonjour.
Et bonjour à vous Oliver Gallmeister. Bonjour Oliver. Oh, on ne vous a pas encore retrouvé. On va y revenir. Pour l'instant, vous savez que la radio se fait encore à distance, en partie à cause de la contrainte sanitaire. Oliver Gallmeister sera avec nous dans quelques instants. Gallmeister, qui fête ses 15 ans cette année avec cette nouvelle traduction, Gallimard est l'éditeur français historique de cette saga. Mais les droits sont tombés dans le domaine public. Oliver Gallmeister et sa maison ont donc choisi de s'en emparer et de nous offrir cette nouvelle traduction presque un siècle après sa première sortie. Et c'est donc vous, Josette Chiche, qui avait eu la lourde responsabilité de vous en emparer. C'est plus de 1000 pages, hein, cette saga, autant on emporte le vent. Combien de temps de travail?
J'ai passé un an, quasiment tous les jours, à traduire ces livres. J'ai dû m'accorder, je pense, une petite semaine de vacances. Mais oui, c'était très lourd. J'ai rendu, en fait, j'avais un petit peu moins de 2000 feuillets. Donc, c'est beaucoup.
La langue de Margaret Mitchell que vous avez découvert ou redécouvert, je ne sais pas, parce que vous l'aviez peut-être lu avant ce roman.
J'avais lu le premier tome quand j'étais ado.
En français ou en anglais?
En français. Je devais avoir 13-14 ans. Et j'avoue que je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souvenais plus, mais quand j'ai commencé la traduction, j'ai regardé dans ma bibliothèque et j'ai retrouvé le poche que j'avais à l'époque. Et j'ai vu que j'avais annoté des passages, souligné des phrases et tout. Mais je me souvenais plus du tout de l'écriture. Enfin, je me souvenais évidemment de l'histoire, mais pas vraiment de l'écriture, quoi.
Comment vous la qualifieriez, cette écriture, celle de Margaret Mitchell? Est-ce qu'elle raconte ce qu'était cette femme, femme née en 1900 à Atlanta, en Géorgie, journaliste d'abord, avant de se lancer dans cette vaste saga historique, sociale et sentimentale, femme qui écrit dans les années 30 aux États-Unis? C'est pas encore si courant que ça. On est un peu plus tard, un peu après Louisa May Alcott, qui, à travers son héroïne, Jo, dans Les quatre filles du docteur March, racontait un siècle avant la difficulté pour une femme à l'époque d'écrire sous son vrai nom. Comment est-ce que dans cette écriture, vous retrouvez la femme qui était Margaret Mitchell?
C'est une écriture très, très classique, je dirais, avec beaucoup dans les descriptions des paysages, des champs de coton, ou bien dans les descriptions des intérieurs de maison, avec beaucoup, beaucoup de détails. Mais sinon, au niveau... moi, j'ai surtout découvert Scarlett O'Hara, qui était un personnage, une femme très en avance sur son temps, une féministe avant l'heure, on va dire, parce qu'elle n'avait pas du tout envie de se plier aux diktats de l'époque en ce qui concernait les femmes. Alors peut-être que Margaret Mitchell, peut-être qu'elle s'est un peu, elle a donné un peu d'elle-même dans ce personnage.
Vous êtes avec nous, Oliver Gallmeister?
Oui, bonjour, oui. Excusez-moi, je viens de vous rejoindre.
Ravi de vous avoir avec nous, il n'y a pas de souci. On a commencé, ouvert cette discussion avec Josette Chiche-Portiche sur ce qu'elle a, elle, perçu à travers l'écriture féminine ou pas d'ailleurs de Margaret Mitchell, qu'elle a donc retraduite à l'occasion de cette nouvelle parution. Racontez-nous juste d'abord comment vous vous êtes lancé dans cette aventure éditoriale, vous, Oliver Gallmeister. ce moment où les droits de ce roman sont tombés dans le domaine public, où comme éditeur vous avez pu choisir d'éditer, rééditer autant en emporte le vent et lui offrir une nouvelle traduction, ce moment vous l'attendiez?
C'est effectivement un moment qu'on attendait depuis quelque temps. Nous, chez Gallmeister, on est une maison de littérature américaine, spécialisée en littérature américaine. Et notre ambition, c'est de présenter dans notre collection de poche Totem un panorama le plus exhaustif et le plus qualitatif possible de la littérature qu'on aime défendre depuis l'origine. Et inévitablement, Autant n'emporte le vent est un monument de la littérature américaine. C'est un livre qui a été publié donc. Vous l'avez dit, il y a près de plus de 80 ans, en 1936. Ça a été un grand succès populaire. C'est aussi un livre qui a reçu le prix Pulitzer. Il fait partie des classiques. Si on lit un livre 80 ans après sa parution, c'est qu'il est de facto rentré dans la catégorie des classiques. Vous savez, les livres disparaissent très très vite. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on peut croire y trouver au départ. Donc, ce livre, moi, je l'avais lu quand j'avais 20 ans, il y a une trentaine d'années. Je l'avais bien aimé, mais sans plus. Et lorsque je me suis interrogé sur l'opportunité de le republier ou pas, je l'ai relu en anglais. Enfin, pour être tout à fait honnête, je l'ai reparcouru en anglais et j'ai été frappé par la vivacité de l'écriture de Margaret Mitchell, par le personnage de Scarlett qui est complètement fascinant, aussi exaspérante soit-elle. C'est quand même une figure impressionnante, un personnage une force de la nature, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, ce livre, il est extrêmement moderne, il faut absolument le publier. Et voilà, j'ai contacté Josette et l'aventure était lancée.
Scarlett O'Hara, ce livre est d'abord un grand portrait de femme. Vous l'évoquez, Oliver Gallmeister, ce que nous disait aussi à l'instant Josette Chiche-Portiche, une héroïne qui traverse son époque, se saisit de son destin aussi et est réellement centrale dans ce roman. On va écouter les mots d'Annie Arnaud racontant sa rencontre avec Scarlett O'Hara.
Il y a un livre qui pour moi était extrêmement important parce que je crois qu'il a vraiment nourri mon imaginaire. C'est Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell.
Et comment Autant en emporte le vent arrive donc à Yvetot?
Alors, comment il arrive? Eh bien, ma mère l'achète. Ça, je sais, c'est un gros livre avec une couverture par-dessus. C'est chez Gallimard, mais ça, je le sais pas naturellement à l'époque. Et il y a une couverture bleue. Et on voit une femme avec une jeune fille, plutôt avec une robe rose, c'est Scarlett. Et cet énorme livre, eh bien, je vais le dévorer, j'ai 9 ans. D'abord, je m'identifie tout à fait à Scarlett, c'est-à-dire que c'est à un point, hein, je crois que je me suis souvenue de cela avec stupeur, mais je fais des prières le soir pour me réveiller dans l'être, la chair, la peau de Scarlett et être loin de donc à la fois de l'épicerie café, mais c'est pas tellement ça, c'est de vivre cette vie et d'être cette jeune fille
libre,
libre. Surtout qui a un mode de vie qui me paraît tout à fait enviable et puis surtout elle déjà elle ne pense qu'à l'amour, elle est courtisée. Enfin pour moi c'est la révélation de l'amour. Ce livre est la révélation des sentiments. Oui. Je me souviens quand Charles lui dit très timide, je vous aime, je suis restée moi comme ça en disant que c'était le secret de la vie qui était là.
Voilà, c'était le secret de la vie qui était là, Josette Chiche-Portiche. Vous retrouvez dans ces mots, Annie Arnaud, votre rencontre aussi avec Scarlett O'Hara?
Oui, mais sauf que j'ai pas... Bon, d'abord, j'ai pas 9 ans, donc j'ai pas le côté romantique que je pouvais avoir quand j'étais jeune. Mais moi, c'est vraiment une femme déterminée que j'ai découvert. Une femme qui veut prendre en main son destin. C'est-à-dire que sa mère lui explique comment elle doit se comporter pour faire partie des bonnes familles, hein, des familles voilà. Mais elle penche plutôt du côté de son père, donc elle a ce côté irlandais. Elle veut boire, elle veut faire du cheval, elle adore toutes ces jolies toilettes et tout, et elle adore aguicher les hommes. Mais on sent dès le début qu'elle se démarque des autres jeunes filles de la région.
Un mot du titre, Josette Chiche-Portiche, et vous, Oliver Gallmeister, vous avez eu envie donc d'offrir à cette saga une nouvelle traduction. Est-ce que vous avez pensé aussi changer le titre?
Pas vraiment, en réalité. Pardon, c'est moi qui réponds, mais pas vraiment. Le titre original a été trouvé par l'édition Gallimard lors de la première publication. C'est un très beau titre, hein, c'est un vers de Villon. Donc c'est un vers qui date du 15e siècle et qui est tellement associé au livre que ça aurait été dommage. Et qui colle quelque part très bien à la traduction, enfin à la traduction littérale, hein, Gone with the Wind, parti avec le vent, emporté par le vent, autant n'emporte le vent, sonne très bien. Donc ça a été décidé assez rapidement qu'il fallait garder le titre. Voilà, on s'est pas vraiment beaucoup posé la question en fait.
Josette Chiche-Portiche.
Oui, moi c'est pareil. Enfin, moi quand je traduisais sur mon ordinateur, j'avais le titre en anglais. J'avais Gone with the Wind. Et puis, bon, après, effectivement, moi, j'ai laissé Oliver prendre la décision. Mais c'est vrai que mettre un autre chose, balayer par le vent, c'était un peu... non, moi, je pense qu'il valait... Oui, c'était mieux de garder le titre.
Est-ce qu'il y a des mots, Josette Chiche-Portiche, des expressions sur lesquelles vous avez buté?
Oui, en fait, j'ai fait pas mal de recherches, parce que, voilà, donc le livre a été écrit en 36-37, mais raconte la vie d'une famille en milieu du 19e siècle. Donc je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que en 1870, on employait ce terme-là, notamment pour les jurons. Scarlett reprend un juron de son père, alors qui est sans doute un vieux juron irlandais, c'est God Knelt Down. Et donc là, j'ai cherché entre Sacre Bleu, Mort Bleu, et je regardais dans le littré pour savoir à quelle époque c'était employé. Ou la fameuse réplique de Red Butler à la fin, qui est très connue, où il dit « My dear, I don't give a damn ». Voilà, là je pouvais pas mettre « je m'en fous », je pouvais pas mettre « c'est le cadet de mes soucis », c'était ridicule. Donc là j'ai choisi « je m'en contrefiche », en me disant que c'était un côté un peu désuet.
Et le taratata ?
Et le taratata ?
Alors le taratata, je l'ai gardé, parce que pendant la traduction, j'ai re-regardé le film en VO, et à la fin je me suis dit « en fait non, c'est ridicule, il vaut mieux que je le regarde en VF ». Et « Fiddle Diddy », je connais pas d'autres personnages dans la littérature américaine qui le dit, et je trouvais que taratata, ça sonnait vraiment bien, et c'est tellement associé à Vivien Leigh. Si j'avais mis la 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 l'air, ça faisait, non, ça le faisait pas, quoi.
Parce qu'en anglais, c'est Fiddle Diddy.
Fiddle Diddy.
Et c'est devenu, effectivement, cette réplique culte. Dans la première traduction, vous savez comment ça avait été traduit déjà, taratata? Ou c'est vraiment au cinéma que cette version-là a été adoptée?
Je sais pas. Mais je crois que Pierre-François Caillé avait travaillé sur la VF.
Alors on repart, si vous voulez bien, justement dans la version française du film « D'autant en emporte le vent », adapté en 1939 par Victor Fleming, avec Vivien Leigh et Clark Gable, le film aux 10 Oscars, multi-récompensé. On y retourne en images.
Qu'y a-t-il, Scarlett? Un secret?
Oh, Ashley! Ashley! Je vous aime!
Scarlett!
Ashley, je vous aime, je le jure!
$25 pour mademoiselle Mabel Mary Weather.
$35 pour mademoiselle Fanny Elsing.
Allons, messieurs, un petit effort pour la cause.
J'offre $150 en or.
Pour quel cavalier?
Pour madame Charles Hamilton.
Oh, je vous ai dit et redit que pour avoir l'air d'une jeune fille convenable, il fallait manger en public comme un petit oiseau. Et moi, je tiens pas à ce que vous alliez chez monsieur Jonesville pour vous tenir comme une fille de ferme et vous gaver comme un goy.
Taratata. Ashley Wilkes m'a dit qu'il aimait les femmes qui avaient un solide appétit.
Ce que les messieurs disent et puis ce qu'ils pensent, c'est pas la même chose.
Maman, papa, regardez-moi!
Nous te regardons, ma chérie. Comme tu es belle, mon trésor.
Et vous aussi? Je vais sauter la barre. Papa, regardez.
Attention, il y a peu de temps que tu montes en Amazon, Bunny.
Red! 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 Si vous partez, où vais-je aller? Que vais-je devenir?
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Clark Gable, Olivia de Havilland et bien sûr Vivien Leigh dans le rôle de Scarlett O'Hara. Alors là, on n'a pas eu où personne n'a eu l'idée de réadapter le film, de le retourner avec d'autres acteurs dans une autre langue. Ce serait impensable tant ils ont marqué les esprits, l'imaginaire collectif, ce trio d'acteurs et de comédiens, cette fresque réalisée à l'époque en 1939, que vous avez dû voir l'un et l'autre, on imagine. Aujourd'hui, le film vient d'être retiré du catalogue de HBO. L'Amérique, les États-Unis sont en ébullition après la mort de George Floyd et réinterrogent son passé, réinterrogent sa culture. Vous comprenez, vous, Oliver Gellmeister, le motif de ce retrait? On lui reproche ses préjugés racistes. Oliver Gellmeister. Alors, Josette Chiche-Portiche.
Oui. Moi, je suis. Je suis pas pour retirer le film. C'est un récit historique. Et la Géorgie à cette époque-là, oui, était raciste. Donc, moi personnellement, on peut pas se voiler la face, on peut pas effacer. Je sais pas, c'est comme si on tournait un film sur la Seconde Guerre mondiale et on disait qu'il y avait pas eu de collabo en France. Enfin, ça a existé. Donc, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que les gens se disent, bon sang, ça a pas changé depuis. Oui, aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, les manifestations et tout. Moi, je suis, si je pouvais manifester, j'irais. Mais retirer le film ou non, je trouve ça un peu comment dire, je trouve ça un peu facile. Si c'est la seule manifestation de HBO, moi je trouve ça un peu facile.
Mais c'était l'époque qu'il était pour vous, ou c'est aussi le traitement que l'auteur, la romancière, fait de cette histoire?
C'est-à-dire que Margaret Mitchell a écrit en 1937. Bon, elle est déjà du Sud, elle est d'Atlanta, et elle a raconté une histoire qui se passait au milieu du 19e siècle. Donc, oui, il y avait des esclaves, il y avait des esclaves qui étaient très maltraités. Mais elle présente une famille où les esclaves, le père de Scarlett n'a jamais battu un esclave. Alors, je dis pas que tous les sudistes étaient absolument formidables, mais voilà, on peut pas faire de généralité. Ce sont ces personnages, dans ce contexte-là.
Oliver Gellmeister. Vous nous entendez? On vous a entendu dire c'est
dingue.
Oui,
je vous entends. Oui, c'est dingue.
Voilà.
J'ai pas entendu votre question, en revanche.
On était sur le film qui vient d'être retiré du catalogue, du répertoire d'HBO pour ses préjugés racistes, tels que l'a justifié la direction d'HBO. Est-ce que vous comprenez ce choix?
Malheureusement, je le comprends, mais je peux pas dire que je l'approuve. Je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'éditeur ou producteur de cinéma d'accepter la vérité en face. Pour revenir sur Autant en emporte le vent, le livre, comme l'a dit Josette, il est évident qu'il présente une réalité du Sud, donc juste à la fin de la, enfin pendant et après la guerre de sécession, qui est maintenant par bien des aspects insupportable. Mais le livre parle avant tout d'une héroïne très forte, résiliente, de la fin d'un monde qu'on peut transposer à plein d'autres mondes de civilisation, culture en train de disparaître. Il y a un aspect universel dans ce roman. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il touche toujours les gens. Après, il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui sont présentées par Margaret Mitchell qui sont plus audibles aujourd'hui et qu'il faut regarder avec du recul, comme je pense les lecteurs peuvent le faire.
C'est une question de langue et d'état d'esprit et de philosophie derrière, hein, dans la première traduction de Pierre-François Caillet, aussi chez Gallimard. Il y a ce langage, cette langue en petit nègre qui a été choisie. On la retrouve dans la version littéraire, écrite d'Autant en emporte le vent, et aussi à l'écran. On entendait à l'instant Mama parler à Scarlett. Aujourd'hui, forcément, ça choque, ça dérange. On peut se dire qu'à l'époque, peut-être, ça incarnait quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas, Oliver Gellmeister, dans ce cas, si on conserve cette langue-là, et vous allez nous dire, Josette Chiche-Portiche, si vous avez choisi de la conserver, est-ce qu'il ne faut pas aussi entourer ce texte, cette saga, ce roman, d'un appareil critique, d'une explication?
Oliver Gallmaster.
Alors, moi, je peux pas, je peux difficilement prendre position pour une traduction que je n'ai pas publiée. Mais pour ce qui concerne les livres que nous publions, en règle générale, je pense qu'un appareil critique n'est pas utile. Parce que j'ai toujours tendance à faire confiance aux lecteurs. Je fais confiance aux auteurs et aux lecteurs. Pour faire la part des choses. Parce que si on commence à mettre un appareil critique pour autant n'emporte le vent, ce qui pourrait se justifier, hein, c'est ma décision d'éditeur de ne pas le faire, on peut en mettre aussi sur des livres, sur, je sais pas, un roman noir avec des personnages de flics racistes et violents auxquels on va finir par s'attacher malgré tout. Et on commence à expliquer une chose, puis une autre, et à la fin, on explique tout. Et de là à ne plus expliquer et finalement interdire les choses, je pense qu'on est sur une pente glissante. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je crois beaucoup en la responsabilité individuelle et en l'intelligence individuelle des lecteurs.
Josette Chiche-Portige, comment vous vous en êtes vous sortie de cette traduction et de ce point-là? Est-ce que vous avez cherché à rendre, à colorer, à grimer d'une certaine manière le langage des esclaves?
Non, en fait, comment dire. Bon, d'abord, moi, je suis opposée au retrait systématique du R et de le remplacer par l'apostrophe, parce que d'abord, je trouve que visuellement, c'est pas facile à lire. On n'est pas habitué en français à avoir beaucoup d'apostrophes. Bon, déjà, c'est un premier point. Et puis je me suis demandé comment rendre ce langage, le langage des esclaves, et J'ai un peu repensé à ce que Maupassant faisait quand il faisait parler les paysans ou George Sand. Donc j'ai fait des fautes de. Je me suis dit bon, ok, les esclaves ils sont pas allés à l'école et tout, donc ils peuvent faire des fautes de. Bon, on va dire en français puisque c'est en français. Donc voilà, par exemple, la première personne du singulier, je la faisais suivre du verbe à la première personne du pluriel. Et j'ai essayé d'avoir une langue très chantante, très musicale. Quand je traduis, je relis tout le temps à la fin ma traduction à voix haute, et donc ça m'a permis d'avoir cette espèce de rythme un peu musical, quoi. Et puis voilà, quoi, j'ai fait un peu un mix de plusieurs choses et tout. Alors, il y a un personnage blanc dans Autant n'emporte le vent qui s'appelle Will, qui épouse la sœur de Margaret, ou Hélène, qui parle très mal aussi. Donc il n'y a pas que les Noirs qui parlaient mal. Voilà, lui c'est un petit blanc, ce qu'on appelle aujourd'hui un redneck. Lui aussi parlait très mal. Et d'ailleurs, quand à la mort du père de Scarlett, il fait un petit discours et les gens disent vraiment, il s'exprime très très mal. Donc je vois pas pourquoi on faisait mal parler les Noirs et pas ce personnage-là.
Et pourquoi ça ne se retrouverait pas aujourd'hui dans la traduction telle que l'avait pensé? Tel que vous nous le dites aussi, Margaret Mitchell. Oliver Gallmeister, qu'est-ce que cette saga, à la fois historique et sentimentale, nous dit encore aujourd'hui de l'Amérique? Quelle Amérique nous révèle-t-elle, nous raconte-t-elle?
Elle est, la saga de Margaret Mitchell est doublement intéressante. D'abord parce qu'elle elle montre un monde en fin de vie, on va dire. Hein. Elle dépeint très très bien le Sud. Elle dépeint très bien comment cet univers qui reposait sur l'esclavage, hein, il ne faut pas l'oublier, est détruit par la guerre de sécession. Elle montre aussi, c'est le second point, une Amérique en devenir avec justement la manière dont les nordistes vont prendre la main sur le Sud et comment les deux, ces deux Amériques-là vont avoir du mal à se réconcilier. Elle parle de la naissance du Ku Klux Klan. Donc en fait, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que ce livre, alors que c'est une fresque historique, centrée autour d'un personnage féminin, est complètement universel parce que, en fait, toutes les luttes, si j'allais jusque-là, je pourrais dire que toutes les luttes qu'on peut voir en ce moment aux États-Unis entre les manifestants actuels et les milices d'extrême droite sont expliquées par ce qui s'est passé à ce moment-là de l'histoire américaine. La guerre de sécession, c'est vraiment la naissance de l'Amérique moderne, avec tout ce qu'il y a de positif et tout ce qu'il y a de négatif. Et les contradictions culturelles entre la vieille Amérique issue de l'Europe que manifeste le Sud, enfin que représente le Sud, et la nouvelle Amérique plus libérale que représente le Nord sont en germe dans ce conflit-là. Voilà. Et ça, pour moi, ça rend le livre absolument intemporel.
Elle voulait, Margaret Mitchell, pour vous, en faire aussi un roman politique.
Alors, c'est toujours difficile de se mettre à parler à la place de quelqu'un d'autre, mais je ne suis pas convaincu que cette vision politique soit celle de l'auteur. Je pense que le point dominant de cette saga, pour moi, c'est quand même la personnalité de Scarlett O'Hara. C'est avant tout, pour moi, un roman sur une femme libre, en dépit des conventions, en dépit d'un monde qui s'écroule autour d'elle. C'est une femme qui va accomplir son destin et qui va passer par des moments douloureux, mais qui va, sans se préoccuper des autres tellement, faire ce qu'elle a envie de faire et réussir. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau dans la littérature, une fois encore, hein, dans les années 30. Une femme forte qui s'accomplit en dépit de ce que pense la société autour d'elle et qui vit dans un monde d'hommes et qui va accomplir son destin.
Mmh. Avec cet ancrage à la terre, hein, qui est le fil conducteur du livre, avec cet ancrage à Tara, cette propriété qui est la sienne et qui rend aussi le livre, là encore, très, très américain d'une certaine manière.
Hein. Tout à fait, oui. Scarlett vient d'une famille de planteurs, hein, donc une famille paysanne, c'est une riche propriétaire terrienne, et ce rapport à l'espace et à la terre, à la propriété, est consubstantiellement américain, ça c'est sûr.
Elle a inspiré, Margaret Mitchell, une génération d'auteurs par la suite.
Alors ça, je ne peux pas trop vous répondre. Je pense pas vraiment qu'elle soit... Il y a eu la guerre juste après la parution. Il y a eu d'autres auteurs du Sud très importants, Flannery O'Connor, Carson McCullers ou Harper Lee. Enfin, il y en a un certain nombre. Mais je pense que ce livre-là, c'est aussi quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'il est comme un monument, un peu tout seul sur sa colline. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents en littérature américaine récente de saga à la fois littéraire, populaire et aussi ambitieuse. Voilà, il y a eu beaucoup de romans sur le Sud, hein, évidemment, mais j'ai du mal à lui trouver un équivalent.
Cette année-là, quand elle obtient le Pulitzer, et je terminerai sur cette question, elle dépasse, elle le rafle devant William Faulkner. Qui lui a laissé une œuvre plus complète, plus entière, plus épaisse, hein, qui a, au-delà d'un livre en tout cas, passé le siècle. Vous comprenez ce choix du jury du Pulitzer cette année-là ?
Les choix des jurys littéraires sont toujours assez mystérieux, pour moi comme pour beaucoup d'autres. Je pense.
Alors ce choix-là partira lui aussi avec le vent, Gone with the Wind, retraduit aux éditions Gallmeister par vos soins, Josette Chiche-Portiche, merci beaucoup. Et à votre initiative, Oliver Gallmeister, évoquons rapidement quand même le fait que Gallimard ressort aussi chez Folio, cette version traduite dans les années 30 pour la première fois en France. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous.